Je vous rappelle en quelques mots quel est le résultat de 10 ans de travaux que j'ai résumé dans plusieurs ouvrages, ce que j'ai appelé la France-Afrique, c'est-à-dire le fait que De Gaulle est acculé en 1960 à accorder les indépendances aux pays d'Afrique au sud du Sahara, aux anciennes colonies françaises, et il décide de décréter cette indépendance, de donner une nouvelle légalité internationale, l'indépendance, et de faire exactement le contraire, de maintenir la dépendance. Il le fait grâce à Jacques Faucard et à ses réseaux, et par conséquent, pour pouvoir maintenir la dépendance, on est obligé de mettre en place un système illégal, donc caché, occulte, inavouable, et des relations qui fonctionnent toutes de manière peu visible. Alors, le premier truc, c'est d'installer des gouverneurs à la peau noire, des gens qui se réclament des services secrets français, qui appartiennent, comme Bongo, ou qui ont la nationalité française, ou d'anciens sergents-chefs de l'armée française, comme Gnassim Bey Yadema, qui vient assassiner le président légitimement élu du Togo, ou d'anciens militaires formés dans l'armée française. Ce qu'on fera d'ailleurs en Algérie aussi au tournant des années 80 avec des militaires qui avaient déserté tardivement, etc. Donc un peu partout, on installe des gens qui en fait sont extravertis, sont complètement pris dans les réseaux financiers, initiés, etc. de la France-Afrique, qui se servent largement dans les paradis fiscaux, à condition de permettre à la France de continuer ses mécanismes de pillage des matières premières, ses mécanismes d'opérations géopolitiques, par exemple entretenir pendant 20 ans la guerre civile en Angola, par exemple agresser les richesses pétrolières du Nigeria, par exemple s'installer auprès du Zaïre de Mobutu pour prolonger pendant 15 ans sa dictature. Bon, tout cela, je ne vais pas vous le redire maintenant, je vais vous montrer un peu jusqu'où ça peut aller à travers ce qui s'est passé au Rwanda. Car, en fait, nous, à Survie, qui étions une association tout à fait consensuelle, on travaillait sur l'efficacité de l'aide publique au développement. Ma foi, ça ne mange pas de pain. L'aide publique au développement, c'est consensuel. On disait, il faudrait peut-être qu'elle arrive à destination. Il n'y a pas grand monde qui pouvait dire le contraire. Bon. Mais, peu à peu, on est tombé le nez sur ces mécanismes de pillage. Je vous rappelle simplement un chiffre qui est paru il y a 3 jours, dans un rapport de Global Witness, ce qu'on appelle la rente pétrolière, c'est-à-dire la différence entre le coût d'exploitation, tout compris du pétrole, et le prix de vente, c'est 1500 milliards de dollars par an. 1500 milliards de dollars par an. Les Nations Unies évaluent à 100 milliards de dollars par an le coût nécessaire pour assurer les services publics, enfin les biens publics fondamentaux, à l'ensemble de la planète, tout au moins ceux qui ne l'ont pas. Donc, la rente pétrolière, c'est 15 fois ce qu'il faudrait pour pouvoir apporter des soins élémentaires, un minimum de lutter contre un certain nombre de fléaux, comme le manque d'eau potable, d'hygiène, etc. Donc, on est vraiment dans des mécanismes de pillage gigantesques. Ça, peu à peu, on l'avait découvert au début des années 90, mais ce qui nous a vraiment plongé le nez dans la criminalité française, c'est le Rwanda. Le Rwanda, on a tout de suite compris, parce que c'était évident, que la France avait soutenu à fond, et continuait de soutenir après d'ailleurs, ceux qui commettaient le génocide. Et donc, dès 1994, novembre 1994, un livre qui s'appelait « Complicité de génocide, la politique de la France au Rwanda » en donnant tout un tas de détails. L'éditeur a voulu rajouter un point d'interrogation à « Complicité de génocide ». Bon, mettons. Mais beaucoup de choses étaient déjà là. En 1995, il y a eu un rapport de Human Rights Watch sur les livraisons d'armes à ceux qui commettaient ou qui venaient de commettre le génocide. un rapport accablant, il y a eu un rapport d'Amnesty. La cause à l'étranger était pratiquement entendue. C'est-à-dire, la France a été l'alliée des génocidaires. Il n'y a qu'en France qu'on ne l'admet toujours pas. Cependant, en 1998, un journaliste du Figaro, Patrick de Saint-Exupéry, qui est par ailleurs prix Albert Londres, donc pas n'importe quel rigolo, ayant reçu pendant 4 ans des confidences de militaires écœurés, publié pour le centenaire de J'accuse une série de 4 articles en forme de bombe montrant la complicité militaire très forte de la France avec les responsables du génocide. Et ça a suscité un tel scandale qu'il a fallu une mission d'information parlementaire pour tenter d'y voir clair. Cette mission d'information parlementaire, par certains côtés, a bien travaillé, mais par d'autres, chaque fois qu'elle butait sur les questions de complicité active, c'est-à-dire les fournitures d'armes, l'instruction des milices, la manière dont Turquoise, au lieu d'arrêter les miliciens, les a aidés à achever le travail, etc., tout cela, la mission d'information parlementaire s'est bien gardée d'aller voir, et elle a fini par conclure que la France avait fait des erreurs, mais qu'elle n'était pas coupable. Il y a récemment un militaire qui a dit à un journaliste « La mission qu'il laisse a bien travaillé, parce que sans quoi nous serions tous devant le tribunal pénal international d'Arusha. » Et vous allez comprendre pourquoi. Nous, à Survie, on n'était pas franchement d'accord avec cette espèce d'auto-blanchiment de la France par la mission d'information parlementaire. Et donc, pour le 10e anniversaire du génocide, nous avons préparé depuis 1 an une commission d'enquête citoyenne pour faire le travail que le Parlement n'a pas fait et essayer d'aller jusqu'au bout. Ça a été très, très, très difficile. Et cependant, les résultats qu'on a obtenus sont quelque part inimaginables. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Il y a eu une conjonction d'éléments. Le premier, c'est le réveil de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, après la mission d'information parlementaire, voulait écrire un livre. Il était spécialiste de l'Afrique au Figaro. On l'a envoyé à Moscou. C'était un peu refroidi, c'est le cas de le dire. Et puis, un jour, il écoute la radio et il entend Dominique de Villepin parler des génocides de 1994 au Rwanda. Il faut savoir que les génocides, le double génocide, c'est le mot de passe de la soumission des politiques aux militaires. Pourquoi ? Dans la mesure où la France a soutenu ceux qui commettaient le génocide, il fallait bien trouver une parade. Et là, on a dit, mais pendant la guerre qui se déroulait au Rwanda, l'adversaire de la France, le FPR, qui était le parti armé des Tutsis qui avaient été exilés 40 ans plus tôt à la suite d'une série de massacres, le FPR a commis aussi quelques crimes de guerre. Il y a eu des représailles, il y a eu... Certains parlent de 30 000 morts, etc. On ne sait pas exactement, il n'y a pas eu d'enquête très précise, mais c'est incontestable qu'il y a eu des représailles. Alors, c'est un peu comme si on vous disait, écoutez, les Américains ont bombardé Dresde, ils ont tué peut-être 200 000 civils, donc la Shoah, l'extermination de 5 ou 6 millions de Juifs, et le Dresde, c'est la même chose. Un partout, la balle au centre, tout le monde égal. Le double génocide, c'est parfait au Rwanda. Parce que si le FPR a commis un génocide, entre guillemets, la France qui combat le génocide du FPR est toujours la patrie des droits de l'homme. C'est parfait. Évidemment, ça ne tient pas la route et je vous expliquerai comment on a trouvé un syllogisme, une ineptie un petit peu plus sophistiquée il y a 3 ou 4 mois. Enfin non, 1 mois à peine. Donc, Monsieur de Villepin dit à la radio, les génocides au Rwanda, le mot de passe du négationnisme du rôle de la France. Le sang de Saint-Exupéry ne fait qu'un tour, et il prend sa plume, et il attrape Villepin par le collet, et il l'emmène au Rwanda, et il l'emmène dans toute son enquête. C'est un livre prodigieux, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, vous n'arriverez pas à vous endormir avant d'être arrivé au bout de ce livre. Parce que ce livre, il va beaucoup plus loin qu'une complicité ordinaire. Entre-temps, L'Inavouable, il vient de sortir le 25 mars. Un livre absolument prodigieux. Parce qu'entre-temps, figurez-vous que de Saint-Exupéry, on est toujours dans la même noblesse, était allé en Argentine. Et curieusement, il a vu là-bas que les méthodes des militaires argentins pendant la dictature ressemblaient étrangement à ce qu'il avait observé dans la préparation du génocide au Rwanda. Il a rencontré un chercheur, un personnage exceptionnel, je le dis parce que j'ai longuement discuté avec lui, et c'est vraiment quelqu'un de passionnant qui traite de ce dont personne ne traite, les doctrines militaires. Il s'appelle Gabriel Périès, il vient de faire un doctorat d'État, il a eu, par chance, accès aux archives de l'école de guerre, et il a découvert des choses extraordinaires. Il a découvert que ce que nous croyons être de l'histoire ancienne, à savoir, vous savez, au Sarès, la bataille d'Alger, le contrôle des populations, d'abord le contrôle de la ville d'Alger, puis le contrôle, le quadrillage des populations dans les campagnes, par la terreur, par les éliminations, les hélicoptères français qui balançaient comme la mafia des gens du FLN dans la baie d'Alger, etc., etc. Toutes ces horreurs qu'on croyait révolues, et qu'on n'a d'ailleurs toujours pas fini d'inventorier, qui étaient le fruit d'une doctrine enseigné par deux officiers principaux, Charles Lacheroy et Trinquier. Ces officiers, ulcérés par la défaite de la France en Indochine, se sont dit « la guerre moderne », c'est comme ça qu'ils appelaient ça, ou « la guerre révolutionnaire », disaient-ils, dans leurs écrits, plutôt « la guerre moderne », puisque « la guerre révolutionnaire », ça consiste à contrôler les populations par la peur et en quadrillant les populations. Et la bataille d'Alger a été considérée comme un immense succès. Aujourd'hui encore, elle est projetée devant les forces spéciales du monde entier pour montrer comment on mate une population. Et Périès a découvert que dès 1961, l'école de guerre française, qui était devenue le carrefour mondial de la culture militaire, avec une doctrine de contrôle des populations considérée comme la meilleure au monde, avait notamment exporté ces méthodes en Argentine et déjà mis en place un quadrillage et un contrôle des populations en Argentine. Ensuite, ces Français remarquables, les Osares, Trinquier, etc., sont devenus les formateurs de la CIA, qui a utilisé leurs méthodes pour l'opération Phoenix au Vietnam, qui a fait à peu près 100 000 morts. Et puis, vous le savez, depuis peu, on l'a découvert, ils ont formé la plupart des dictatures latino-américaines à leur méthode, avec quelques dizaines de milliers de morts dans des conditions assez épouvantables. Donc, en fait, ces méthodes-là, qu'on croyait révolues, et que De Gaulle avait un peu écartées, parce que ce qui est extraordinaire dans ces méthodes, c'est qu'elles gagnent à court terme par la terreur, mais elles n'empêchent pas vraiment la défaite, ni en Indochine, ni en Algérie. Et De Gaulle avait compris, militaire et connaissant ces bons hommes, que c'est pas parce qu'on contrôlait les petites populations qu'on allait gagner la guerre en Algérie. Donc, De Gaulle a été considéré comme un traître par ces gens-là. Ils ont failli le descendre. De Gaulle les a un peu écartés. Mais il en avait besoin pour l'Afrique noire. Et donc, tous ces gens-là ont été recyclés dans les polices politiques en Afrique noire, au Gabon, au Cameroun, ailleurs, et puis ensuite en Amérique latine. Et ils ont continué, de proche en proche, à travers les traditions des forces spéciales, à maintenir leur doctrine. Ce que nous explique Saint-Exupéry, c'est que quelques militaires, quelques stratèges militaires, qu'il appelle les apprentis sorciers, se sont réveillés à la fin des années 80, en disant mais on a encore perfectionné notre arme de contrôle massif. On est capable de contrôler encore un peu mieux les populations et de les entraîner un peu mieux dans des mécanismes de peur et de haine. Tout notre savoir-faire a franchi un palier. Et ce qu'explique Saint-Ex, à partir des confidences des militaires, et c'est là que son livre est très fort, parce que lui a recueilli 10 ans de confidences de militaires, tandis que Périès, lui, il a travaillé uniquement sur archives, à partir des documents qui expliquent comment on quadrille, comment on contrôle, comment on fiche, comment on fait des escadrons de la mort, etc., etc. Et ces militaires, fin des années 80, convainquent Mitterrand que le Rwanda, finalement, que la France a conquis, reconquis à la Belgique, si vous voulez, à partir du milieu des années 70, la France se prend des ambitions, des envies d'Afrique latine. L'Afrique française ne lui suffit plus, il faut conquérir les anciens pays de colonisation belge ou portugaise. Donc, la France s'est installée au Rwanda. Les Tutsis qui veulent rentrer se sont mis à parler anglais puisqu'ils étaient depuis 30 ans dans un pays anglophone. Donc, ce sont des Anglais, des anglophones. Faisons-leur la guerre, vraiment. Et on utilise les méthodes de la guerre moderne, de la guerre psychologique, de la guerre révolutionnaire pour faire la guerre à ces gens-là. Tout y est. La désignation de l'ennemi intérieur, la manipulation des foules à travers un concept ultra-moderne, une radio, Radio des Mille Collines, RTL-M, qui, sur le format d'énergie, arrive à capter son auditoire de manière extraordinaire en distillant des messages de haine qui vont pousser les gens, qui vont pousser plus d'un million de personnes à en exterminer un million d'autres. C'est la quatrième arme de destruction massive. On avait inventé les armes chimiques pendant la guerre 14, l'arme nucléaire pendant la guerre 45, on a tripoté un peu avec l'arme biologique en Afrique du Sud et ailleurs, et là, on a trouvé un rapport qualité-prix extraordinaire. Parce que RTLM, ça coûte pas cher. Et on n'a pas besoin d'acheter des armes, les machettes. Il suffit qu'on enrôle la population. En termes de contrôle, en termes de manipulation psychologique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, tout ça peut paraître incroyable, mais c'est ce qu'affirme Saint-Exupéry, et il est difficile de penser qu'un journaliste qui enquête depuis 10 ans, qui a une telle réputation, risque sa carrière uniquement sur des choses qu'on ne lui a pas expliquées. Et donc, on est devant cette folie incroyable que des militaires français qui, depuis l'IOT, depuis les troupes coloniales, je vous rappelle que ces troupes coloniales, inchangées, sont devenues les troupes d'infanterie de marine. Et que ces troupes d'infanterie de marine, ce sont celles qui sont toujours en Afrique et qui constituent les forces spéciales. Eh bien, ces gens-là, qui, depuis l'IOT, ont toujours pratiqué l'utilisation de la manipulation ethnique pour dominer tel ou tel pays, sont passés là à l'échelle supérieure. Ce qui est aussi très important dans ce que nous explique Saint-Exupéry, c'est que il y a eu une sorte de coup d'État en France. Ces militaires appartiennent à quelques régiments très précis. Le premier RPIMA, qui est l'ancien service action, le 11e choc des services secrets, le 2e REP, la Légion, les différents commandos, commandos de répel, commandos, enfin toutes les commandos d'action spéciale, le GIGN, etc. Toutes ces forces de commandos spéciaux se sont regroupées en 1992 en un commandement des opérations spéciales, le COS, rattaché directement à l'Élysée hors hiérarchie. Comme le dit Saint-Exupéry, Mitterrand s'est doté d'une légion présidentielle. Comme n'importe quel président africain, il a eu droit à sa légion constituée des hommes les mieux armés, les mieux entraînés de l'armée française, 3000 hommes capables de mener une guerre secrète au Rwanda. Parce qu'effectivement, à part un ou deux articles, la France a mené pendant 4 ans une guerre au Rwanda contre le FPR et personne pratiquement n'en a rien su. Or, La mission parlementaire n'a pas dit grand-chose, mais elle a montré quand même qu'en 1992-93, c'était la France qui carrément dirigeait l'armée rwandaise en déconfiture. Nous menions la guerre. Et nous menions la guerre avec des gens qui se préparaient au génocide. Nous étions leurs conseillers stratégiques. Alors, évidemment, tout cela ouvre des horizons assez incroyables. Si on veut être gentil, alors je vous rappelle que la commission d'enquête citoyenne a montré que pendant tout le génocide, la France a livré des armes, qu'elle a continué à en livrer après, qu'elle les a livrées par l'aéroport de Goma qu'elle contrôlait, donc c'est tout à fait certain qu'elle le savait, que certaines de ces armes ont été payées par la BNP et par la Banque de France, qu'on a accordé un soutien diplomatique à l'ONU, qu'on a exfiltré les chefs génocidaires au moment de l'opération turquoise, il y en a 6 pages. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais la complicité pendant et après le génocide, elle est énorme. Si on suit le chemin de Saint-Exupéry, on peut se dire, oui, la France a essayé de tester ses nouvelles armes psychologiques, manipulation, etc. Et puis, comme quand on fait parfois une expérience nucléaire, ça diverge. C'est-à-dire qu'on veut cantonner l'énergie et puis en fait, ça pète. Ce serait une hypothèse gentille. Autrement dit, on a testé une arme et puis elle nous a pété, pas à la figure, à la figure des Rwandais. En fait, cette hypothèse tient assez difficilement la route, parce qu'à supposer que l'arme ait pété le 6 avril 1994, aussitôt, les gens se seraient précipités pour essayer de limiter les dégâts, se rendant compte que quelque chose a pété les boulons. La France ne pouvait pas dire qu'elle ne savait pas qu'il y allait y avoir génocide au Rwanda. On a aussi montré pendant la commission d'enquête que l'armée belge et le gouvernement belge connaissaient très précisément, un mois avant, le plan de déclenchement du génocide. Or, les chefs des services de renseignement français, pendant la mission d'information parlementaire, sont venus dire « Nous étions les meilleurs sur le renseignement au Rwanda. » Donc, si les Belges savaient, les Français savaient. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Or, pourtant, le génocide s'est déclenché et ils n'ont strictement rien fait, sinon intervenir 2 mois et demi plus tard pour aller sauver les génocidaires. Et dans un premier temps, ils ont d'abord essayé de couper le Rwanda en deux pour faire une sorte de Corée du Nord où on aurait mis en place tous ceux qui avaient commis le génocide pour permettre de contre-attaquer ensuite. Tout ça, ça a été aussi montré pendant la commission d'enquête citoyenne. Donc tout ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis, nous avons été au Rwanda recueillir des témoignages de rescapés et des témoignages de prisonniers pentis. Alors on peut dire, les témoignages de prisonniers pentis, c'est pas forcément d'une grande fiabilité. Sauf que dans les 15 témoignages qu'on a, on a à peu près un tiers de prisonniers et 2/3 de rescapés. Les prisonniers disent, pas du tout au mot près, mais dans la description de ce qui s'est passé, exactement la même chose que les rescapés. Et que disent les rescapés? Dans la principale poche, à Bisesero, à l'ouest du Rwanda, dans des collines, où 50 000 Tutsis ont résisté avec des cailloux, avec des bâtons, etc., pendant 2 mois. Ils n'étaient plus que 5 000 au moment de l'arrivée de Turquoise. Les forces turquoises sont arrivées le 27 juin, en disant « on va revenir ». Elles ne sont pas revenues. Elles sont revenues 3 jours plus tard, et pendant les 3 jours entre deux, il y a eu des assauts de miliciens sans précédent, avec des moyens sans précédent, qui ont exterminé une partie de ces Tutsis. Et ce que disent les miliciens repentis et les rescapés, c'est qu'en fait, la France, non seulement n'a pas sauvé, mais pendant ce temps-là, par divers pièges, a fait sortir les Tutsis de leur cachette et amené des miliciens déguisés en infirmiers ou tiré des coups pour prévenir qu'on n'était plus là et qu'on pouvait aller assassiner ou fait toutes sortes de leurres destinées à éliminer cette poche de résistance dans le futur Ukuland. Autre témoignage que nous avons reçu et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, il y avait un camp de 8000 réfugiés Tutsis, je crois que c'est vers Butare, qui s'appelait Nyarushishi. Et là, les militaires français sont arrivés pour protéger ce camp. Le but de l'opération turquoise, c'était de protéger les derniers rescapés. Eh bien, là encore, il y a des témoignages de miliciens et de rescapés qui viennent dire, mais il y a eu un accord entre les soldats français et les miliciens. Les miliciens disent, c'est difficile qu'on vous laisse, que les Français leur ont dit, c'est difficile qu'on vous laisse massacrer parce qu'il y a quand même des photos satellites, ça se verrait un peu. Mais, de temps en temps, on va en faire sortir. Et effectivement, les rescapés nous disent, on n'avait pas beaucoup à manger, surtout on n'avait pas de bois. Il fallait qu'on aille chercher du bois. Et donc, les Français nous ouvraient la porte, les gens allaient chercher du bois, et puis ils fermaient la porte derrière, ils empêchaient les gens de rentrer, moyennant quoi, les miliciens ont massacré tout ça. Et des femmes, plusieurs femmes, des témoignages tout à fait insoutenables, décrivent que ces militaires français, régulièrement et sur une longue durée, ont violé ces femmes et ont fait subir toutes sortes d'exactions ou de supplices à des Tutsis qui venaient d'être rescapés. Alors là, on dépasse quand même, je dirais, les bornes de l'horreur. Je veux dire. On a un génocide, on a quelques milliers de rescapés, on a des soldats français sauveteurs, et ces soldats français se comportent avec des méthodes qu'on peut qualifier de méthodes nazies. C'est insoutenable. Ces témoignages sont insoutenables. Tout ça ne peut s'expliquer que parce que certains régiments, certaines unités de l'armée française sont depuis toujours dans une logique confinée, une logique où l'extrême droite a sa part et où le racisme, c'est pas quelque chose de considéré comme très important. Un certain nombre de miliciens disent, mais les Français qui sont venus à Turquoise étaient encore plus anti-tutsis que nous. L'anti-tutsisme des Français qui sont venus pour Turquoise était inimaginable. Mais il n'y a pas que les anciens miliciens qui disent ça. Colette Brackmann, la journaliste belge, nous a donné un certain nombre de témoignages dans le même sens. Il y avait des officiers, par exemple, de l'armée rwandaise qui en avaient marre des massacres, qui voulaient rejoindre le Rwanda. On les a traités de sales nègres parce qu'on leur disait mais vous devez être avec vos alliés naturels. Vos alliés naturels, ce sont les gens qu'on est en train d'exfiltrer vers le Zaïre voisin, le Congo, pour pouvoir relancer l'attaque. On a aussi des témoignages comme quoi, aussitôt le génocide commis, les Français ont recommencé à former les miliciens, les militaires, pour poursuivre la guerre. On a sorti un document du général Huchon qui commandait toute l'opération de paix du ministère de la Coopération et qui explique que la guerre sera longue. Notre seul problème en France, c'est pas que vous commettiez le génocide, c'est que vous avez une image qui devient détestable, donc on a un peu de mal à vous aider. Bon. Tout ça, ce sont des documents qu'on a produits pendant la commission d'enquête citoyenne. Alors vous voyez que on est devant quelque chose de terrifiant. On est devant un accord entre le président de la République. Je vous rappelle que nous ne sommes pratiquement le seul pays occidental à avoir une monarchie républicaine où tout un tas de domaines comme les affaires étrangères, les affaires africaines, etc. relèvent directement du président. Eh bien, il y a eu une sorte de deal entre ce président et une partie de l'armée pour pouvoir continuer et mener jusqu'à l'extrême des politiques qui sont en fait celles de la France-Afrique depuis 40 ans. Parce qu'on a continué au Congo-Brazzaville, les mêmes troupes spéciales, les mêmes pseudo-mercenaires, les mêmes troupes formées par la France, et d'ailleurs une partie de l'armée des miliciens rescapés de cette aventure sont allés rétablir M. Sassou Nguesso et commettre en 1999 une série de crimes contre l'humanité abominables. Et tout ça dans le plus grand silence, comme d'habitude. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à écrire le livre Noir Silence. Vous poserez peut-être les questions après sur le Rwanda. Je termine cet exposé introductif parce que je crois que l'échange sera plus intéressant. Tout cela, c'est le mépris des peuples. Alors, nous avons eu samedi dernier, un colloque à l'Assemblée nationale sur comment en est-on arrivé là. Un colloque intitulé « La République française et le génocide ». Parce que c'est une longue histoire. En fait, nous participons de la construction du racisme européen. Le racisme européen n'est pas si ancien que cela. Il a commencé vers le 16e, 17e siècle. Montesquieu était particulièrement raciste. Il n'y en avait qu'un seul qui ne l'était pas à ce moment-là, c'était Montaigne. Mais c'est le début à ce moment-là. Et surtout, ça fleurit vers la fin du 19e siècle avec les descendants de Darwin qui veulent appliquer à l'humanité la théorie de la sélection des espèces. Et on entend Jules Ferry à l'Assemblée nationale parler des races supérieures, etc. À l'époque, au moment des débuts de la colonisation, le problème du mépris des peuples africains, des civilisations africaines, est quasiment universel. D'où le livre extraordinaire de Joseph Conrad, Exterminer toutes ces brutes, et le livre encore plus extraordinaire de Sven Lindqvist, qui écrit aussi Exterminer tous ces brutes en racontant les origines du racisme européen. C'est un livre à lire absolument. C'est un livre extraordinaire. Le livre de Lindqvist, Exterminer toutes ces brutes. Vous comprendrez beaucoup de choses en lisant cela. Il est édité par le Serpent à plumes, qui vient d'être racheté par un paradis fiscal, malheureusement, à Monaco. Comme quoi, les éditions indépendantes et ce type de propos sont menacés. Sven Lindqvist, Exterminer tous ces brutes, c'est prodigieusement intéressant.
Ça date de quand ?
Lui, il l'a écrit en 92, c'était avant le Rwanda. Mais c'était publié en France il y a 4 ou 5 ans. C'est un livre extraordinaire. Bon, donc, il y a ce racisme européen, et puis, il y a aussi la tradition de complaisance française envers le génocide. N'oubliez pas que Mitterrand a été décoré de la Francisque, qu'il est resté l'ami de Bousquet pratiquement jusqu'à sa mort, et qu'il a eu des complaisances de tous ordres avec un certain nombre de nettoyages ethniques en Europe ou ailleurs. Et, selon Saint-Exupéry, quand on questionnait sur le Rwanda en lui disant « c'est pas brillant », il a dit « oui, mais un génocide dans ces pays-là, c'est pas trop important ». Et son conseiller, Bruno Delay, à qui on disait « mais la France pourrait quand même faire quelque chose », bon, c'est la guerre. Et c'est ainsi que les Africains se comportent. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, la désinformation, et notamment celle du Monde, qui a joué un rôle majeur, en censurant ces reporters sur place qui parlaient de génocide, jusqu'au 8 juin, eh bien, pendant toute la guerre, on vous a dit justement « c'est pas un génocide, c'est la guerre ». C'est la guerre. Tout cela n'a pas d'importance. Ces villas n'ont pas d'importance. J'ai eu un procès contre Charles Pasqua, je crois que c'était en 99-2000, parce que j'avais expliqué que Pasqua avait échangé Carlos contre un soutien au nettoyage ethnique au sud Soudan. J'avais dit des choses bien plus méchantes sur Carlos, mais là, ça l'embêtait parce que les Sud-Soudanais étaient catholiques, donc c'était mauvais pour son image de marque. Je ne devrais pas le dire parce que j'ai été condamné à un franc symbolique, de verser un franc symbolique à Pasqua pour la raison suivante. C'est que le tribunal m'a dit « tout ce que vous dites, c'est vrai, sauf que vous auriez dû attribuer au gouvernement français tout entier ce que vous attribuez à Charles Pasqua. » Dont acte. Pasqua, dans le cours du procès, avait invité des témoins, dont le directeur de la DST, la Direction de la Sécurité du Territoire, qui avait monté l'opération Carlos, qui nous a décrit tout ça dans tous les détails, et qui nous a dit, écoutez, l'opération Carlos, là, l'exfiltration de Carlos, techniquement, c'est la plus belle opération, pratiquement, que j'ai fait durant ma carrière, et vous comprenez, dans ces cas-là, texto, on met le génocide entre parenthèses. Autrement dit, une prouesse technique, une prouesse dans la guerre psychologique, etc., on met le génocide entre parenthèses. Parce que ces vies-là, ça n'a pas très grande importance. Alors je ne vais pas vous réciter toute l'histoire de la France-Afrique, mais l'histoire de la France-Afrique, c'est l'histoire du mépris des peuples. C'est l'histoire du mépris de leur culture, de leur civilisation, des richesses dont ils sont légitimement propriétaires, et on peut leur coller n'importe quel dictateur abruti, ça n'a aucune importance, puisque ces peuples n'ont pas de valeur aux yeux d'un certain nombre de gens qui nous gouvernent. Je vous cite un seul exemple qui m'a été rapporté récemment par des gens qui font de la coopération décentralisée dans les Deux-Sèvres. Ils ont été au Togo. Vous savez que le Togo est dirigé par l'assassin du président légitime Olympio depuis 41 ans. Gnassingbé Yadema. Une sorte de Ceausescu qui règne par les escadrons de la mort, la terreur, entretenu depuis bien longtemps. Et ils sont allés voir un ministre. Et Diadema s'est demandé ce qu'ils allaient voir chez ce ministre. Et donc, il les a convoqués à 10h du matin. 10h du matin. Ils sont allés voir Diadema, ils sont entrés, ils sont assis en face de lui. Pendant une demi-heure, Diadema ne leur a sorti que des bords bourguignons. Et toutes les 5 minutes, il avait un bouton sous son siège. Il appuyait sur le bouton et il y avait un serveur qui amenait un cognac. Donc, bon, 5 ou 6 fois pendant l'entretien à 10h du matin. Et... Voilà les magnifiques chefs d'État que la France installe à la tête de ses néocolonies. Et c'est pas seulement le mépris des peuples africains, c'est le mépris du peuple français. Parce que je pourrais vous démontrer très longuement que tout ça ne rapporte pas un sou aux citoyens français. Tout ça va dans des territoires exotiques où on se partage entre ses gouverneurs à la peau noire et nos dirigeants. Chirac a volé au moins 100 milliards de francs durant sa carrière. C'est le plus grand voleur depuis Louis XIV. Il en a volé sur les marchés publics en Ile-de-France. Il en a volé une grande partie en Afrique. C'est le pivot de la France-Afrique. Mais il n'est pas tout seul. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'écuries politiques se sont servis abondamment en Afrique. Pas seulement les Français, les Américains, etc., bien sûr. Alors vous dites, ça rapporte à la France. Mais non. Non seulement ça ne rapporte pas, mais comme ces pays sont complètement vidés de leur substance, et que du coup, ils ont des dettes et qu'ils ne peuvent pas rembourser, on vient dire aux contribuables français, mais il faut rallonger pour effacer la dette de ces pays. Donc, je ne vais pas vous faire une longue démonstration, mais le bénéfice économique pour le peuple français, il est non seulement nu, il est en dessous de zéro. Et il serait quand même temps de comprendre que cette politique raciste, cette politique de mépris des peuples, non seulement va nous revenir à la gueule, mais quelque part, ça nous humilie profondément et que nous devons nous dresser, nous aussi Français, contre cette politique.
Vous avez sûrement des questions.
Comment vous, en tant qu'écrivain, vous qui nous mettiez sur la bonne voie, vous qui nous aidiez à comprendre davantage le cas africain ou bien le cas franco-africain, et comment vous pouvez influencer ou bien influer plutôt, sur, de par vos écrits et vos livres, et sur la grande masse française, pour que la France comprenne. Voilà.
Alors,
dans les débats, je ne sais pas, et ça nous manque.
Bon, c'est vrai, d'abord, ce n'est pas un travail personnel, c'est le travail de l'association Survie qui existe depuis 20 ans et qui fait un travail de collecte de recherche d'informations. Moi, j'écris des choses, mais si j'étais tout seul, bien sûr, je n'aurais pas pu faire ce travail. Et d'autre part, c'est aussi parce qu'il y a des milliers et des milliers d'Africains qui sont venus nous dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire à peine d'être... Écroués, emprisonnés, voire même trucidés. Bon, donc, je dirais quelque part, si des Africains m'ont fait l'hommage de me dire, mais c'est extraordinaire, vous décrivez le monde dans lequel nous vivons depuis notre naissance sans le connaître. Mais c'est tout simplement parce que j'ai répercuté tout ce que nous avons reçu de témoignages. Et que nous avons vérifié par ailleurs, parce qu'on ne se contente pas des témoignages, mais ces témoignages sont recoupés par de multiples sources. Bon. Alors maintenant, il faut faire connaître ça à la France. Et ce n'est pas facile, ça résiste. Ma conviction maintenant, c'est que seul le scandale permettra de faire sauter le système. Parce que Eric Hazan l'a rappelé tout à l'heure, les capacités d'étouffement, les capacités de manipulation dans la presse, sur ces relations franco-africaines sont immenses. Maintenant qu'on a en plus 80% de la presse écrite qui appartient aux marchands de canons, vous imaginez que les espaces de liberté en la matière sont restreints. Mais je pense qu'avec cette affaire du Rwanda, on s'approche d'un scandale majeur. Parce que jusqu'à présent, on a maintenu les digues. On a dit, mais non, la France est allée sauver ceux qui étaient menacés par le génocide. Tout ce que nous entendons en ce moment montre que le travail que nous avons fait, le travail que Saint-Exupéry a fait, etc., tous ces témoignages affluent tellement nombreux que les digues vont sauter. Et que là, à mon avis, ce sera le moment ou jamais de dire on n'en veut plus. Parce que toutes ces affaires-là sont à vomir, il faut quand même le dire. Enfin, c'est quelque chose. Vous entendez en ce moment des émissions sur ce génocide au Rwanda, dont l'atrocité est inimaginable, parce que non seulement on tuait les gens, mais on ne les tuait pas tout à fait pour qu'ils puissent souffrir encore pendant 24 heures. Bon, je ne vais pas vous raconter ces horreurs, mais nous, Français, notre pays, notre gouvernement a été complice avant, pendant et après, en parfaite connaissance de cause de ce qui se passait. Et ça, il faut que ça sorte. Alors, c'est pas survie tout seul, c'est pas moi tout seul qui peut faire sortir ça. C'est tout le monde. Il faut que nous disions, nous n'en voulons plus. Pour vous donner encore un signe invraisemblable, c'est le 10e anniversaire du génocide, l'un des 3 ou 4 génocides du XXe siècle. La préfecture de Paris refuse une marche silencieuse des associations de la mémoire de rescapés en France parce qu'il y a la reine d'Angleterre. Mais il faut y aller, il faut y aller, il faut aller soutenir, il faut que les Africains se rendent compte que ce mépris des peuples n'est pas un mépris seulement des Rwandais, c'est un mépris de tous les peuples africains. Et il faut retrouver l'élan des leaders indépendantistes panafricanistes qui se rendaient compte que seule cette solidarité pouvait permettre de vaincre ces systèmes.
Oui.
Bon, il le refusait finalement. Au départ, il l'avait accordé aux nostalgiques du génocide et refusé aux rescapés. Bon, alors, ils ont été. Finalement, ils ont dit on interdit les deux. Enfin.
Mais toujours la symétrie. Les génocides.
Mais oui. Nous allons évidemment nous battre là-dessus.
Ouais.
En
fait, je ne sais pas bien
l'intérêt de la France à trouver dans la planification
Alors, il y a 3 explications, y compris celles qu'on ne connaît pas. Bon, il y a une explication officielle, décrite longuement en Conseil des ministres par Mitterrand. C'est « Nous faisons la guerre aux anglo-saxons en Afrique ».
Syndrome de Fashoda.
Et on explique ça longuement, les anglophones, l'Ouganda, qui veulent venir conquérir le Rwanda, etc., etc. Moi, je n'y crois pas beaucoup, pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que les principaux leaders de ce syndrome de Fashoda, disons grosso modo les Pascoyens, qui ont été en tête dans cette affaire, et Mitterrand était très proche de Pascua, parce que dans la France-Afrique, les alliances ne sont pas exactement les mêmes que devant les électeurs. Dans ce monde-là, en fait, quand on regarde leur généalogie et leurs liens, ils sont extrêmement proches des Américains. Falcon, le Pascoyen qui est au cœur de l'affaire de l'Angola Gate, il a été le principal contributeur de la campagne de Bush à égalité avec le PDG d'Enron, et il a établi sa firme pétrolière aux États-Unis. Bon. Aujourd'hui, la France-Afrique, tous les responsables africains et politiques et français pratiquement de la France-Afrique, tous les présidents france-africains, les principaux responsables des services secrets, les principaux généraux qui agissent au nom de la France en Afrique, généraux français ou africains, les principaux acteurs pétroliers, banquiers, appartiennent tous à la Grande Loge nationale française, qui est une obédience très à droite, ressuscitée l'ancienne Grande Loge des colonies, ressuscitée en 1948 au moment de l'arrivée de l'OTAN à Paris, et qui a comme caractéristique d'être la seule affiliée aux obédiences américaines. Parce que la tradition maçonnique française, tradition humaniste, qui a contribué à l'édification des institutions démocratiques, de la protection sociale, etc., est en fait plutôt des obédiences de la franc-maçonnerie latine, le Grand Orient, la Grande Loge de France, etc. Autrefois, d'ailleurs, il y avait beaucoup de francs-maçons du Grand Orient en Afrique. Mais tout cela a été converti. La GLNF se vante d'avoir converti en une seule fois les 200 principaux responsables du Gabon. Et Bozizé, qui a été devenu président général de la Centrafrique il y a quelque temps, aussitôt, Sassou Nguesso, grand maître voisin, a envoyé un avion pour l'initier séance tenante, parce qu'il est impensable d'être un président france-africain sans être initié à la GLNF. Or, la GLNF est totalement liée au milieu atlantiste. C'est l'obédience atlantiste. C'est l'obédience rattachée à George Bush et tous les patrons du lobby militaro-industriel américain qui appartiennent à la même obédience. Autre élément, pendant le génocide, il y a eu des trafics d'armes pour alimenter ceux qui commettaient le génocide. Or, on s'aperçoit que ces trafics d'armes partaient de l'aéroport d'Ostende, d'aéroports britanniques, voire avec le concours de l'armée israélienne. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise anti-américaine, anti-anglo-saxonne, pourrait avoir reçu en plein cœur de son opération le soutien des trafiquants d'armes de l'OTAN patentés, établis dans les aéroports britanniques, belges ou autres? Non. Autrement dit, la raison, syndrome de Fashoda, je n'y crois pas, c'est de la propagande à usage subalterne. L'autre raison, c'est celle qu'avance Saint-Exupéry. C'est de dire, ces militaires fous, sans contrôle, se sont dit, le terrain rwandais est un laboratoire magnifique pour expérimenter nos nouvelles méthodes de guerre et de contrôle des populations. Cela ne me paraît pas suffisant. Je pense qu'il va y avoir un motif. Alors là-dessus, il faudrait que j'en parle pendant 2 ou 3 heures, parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont échafaudées, mais elles sont protégées, vous l'imaginez, par un secret d'État important, parce que ces hypothèses sont évidemment inavouables. Parce que si on a été jusqu'à se battre et aider des gens qui commettaient un génocide, c'est vraiment qu'on voulait protéger des choses qu'on avait à cacher. Alors, comme ces hypothèses, nous n'avons pas d'éléments pour les étayer, sauf des indices, je ne vais pas vous embêter avec ça.
Je trouve que pour avoir assez bien connu la guerre d'Algérie, l'hypothèse généraux fous tournant en boucle sur leur théorie folle
et n'est pas
impossible.
Enfin, en tout cas, c'est la thèse de Saint-Exupéry. Et lui, il la tient des militaires.
Oui, mais je la trouve vraisemblable. Ces types sont des timbrés, quoi.
Et c'est d'autant moins invraisemblable que nous avons tenu un colloque à l'Assemblée nationale, il y a 2 ans, sur les mercenaires. Et 2 personnes sont venues témoigner qu'en fait, ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville avec tous ces massacres avait été choisi comme un terrain d'expérimentation de l'utilisation des mercenaires et des vrais faux mercenaires. Parce qu'il y a toute une doctrine aussi maintenant sur l'utilisation des armées privées ou parallèles. Et il y avait eu des Kriegsspiele, c'est-à-dire des jeux de guerre, on avait fait des essais, on avait trouvé ça intéressant, et il fallait un terrain d'expérimentation. Et à ce moment-là, il y a eu quelques tensions au Congo-Brazzaville, les militaires ont dit, mais ça c'est parfait pour essayer.
Oui.
Moi, je serais amené à dire que, mais si vous voulez le dire, les Africains ou les Français d'origine africaine vont se sentir un peu dédouanés et se dire que voilà, tout ce qui se passe en Afrique, c'est pas notre faute. Mais je voudrais dire que, quelle est la part des responsables africains dans tous les génocides et dans toutes les crises économiques et sociales qui se passent en Afrique, la part des populations africaines, même si celles-ci peuvent être manipulées, désinformées. Et autres.
C'est une responsabilité très grande.
Oui, et puis j'aimerais finir un peu cette clarté et dire, parce que si on prend en parallèle la France, qui est un grand pays, est-ce que les Français, vous sentez manipulés par une grande puissance, par exemple, comme les États-Unis, vous, en tant que peuple, citoyen responsable, vous parvenez à vous, à être respecté et à aller de l'avant. Pourquoi les peuples africains, parce que nous ne pouvons pas parler de l'Afrique, ne peuvent pas se prendre en charge collectivement et dans les peuples, pour se dire que voilà, on a assez enduré les difficultés de la vie. Là, il faut considérer ce risque et dire on va aller de l'avant et ne plus accepter ses responsabilités. Moi, je vous entends parler et puis je vais dire tiens, tout ce qui m'arrive, c'est vraiment pas, c'est vraiment faute. Les grandes puissances qui nous ont vécu et on se déploie. Et j'accepte pas ça.
Vous avez 200% raison. Mais simplement, il faut accepter une pensée complexe. Moi, je vous ai parlé de la responsabilité de la France, parce qu'on ne vous parle que de la responsabilité des Africains. Et même maintenant, comme le disait Eric Bazin, on publie des livres pour dire que tout ça, c'est seulement la faute des Africains, et que si on mettait des Suisses à la place des Togolais, le Togo redeviendrait la Suisse de l'Afrique. Bon, et on vous explique que la colonisation, c'était pas si mal que ça, que les gouverneurs étaient finalement des gens qui faisaient le bien. Bon. Mais tous ces gens-là n'ont jamais vu la réalité de la colonisation. Ils n'ont jamais vu les massacres, les horreurs. Je veux dire, nous qui commençons à nous plonger dans cette histoire, c'est quand même une histoire abominable. Et dans le colloque que nous avons eu samedi à l'Assemblée nationale, il y a un Comorien, qui est un écrivain comorien d'ailleurs, qui viendra dans deux mois sans doute, Sofet Badawi, qui a dirigé avec un collègue malgache l'écriture du livre « Dernières nouvelles de la France-Afrique », qui dit « Quand pendant 12 ans on a gouverné les Comores avec cette espèce de mercenaire de denard, on nous a aussi volé notre âme ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même sous-estimer les dégâts commis par cette politique ignoble. Cependant, vous avez 200% raison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a cela qu'il n'y a pas de grands responsables africains. Bien entendu, j'allais dire, tous les chefs d'État et leurs clans qui acceptent d'être les salariés d'Elfes et de se vendre à l'ancien colonisateur portent une responsabilité considérable. Et bien entendu, tous les peuples ont toujours la possibilité de se libérer, et il y a des exemples. Il y a Madagascar qui a chassé le dictateur, il y a le Mali qui a chassé Moussa Traoré, il y a le Niger où on a renversé un dictateur phocartien et où la France a coupé sa coopération. Comment ? Mais oui, donc, si vous voulez, je ne suis absolument pas dans la fatalité. Ce que nous condamnons, c'est le discours négationniste qui consiste à dire ce n'est pas les colons, les anciens colons qui ont une dette vis-à-vis de l'Afrique, c'est l'Afrique qui a une dette parce que finalement, ça, je ne l'accepte pas parce que je considère qu'il faut quand même un respect de l'histoire. Quand vous avez quelqu'un qui a été violé, or la colonisation c'est un viol, il ne faut quand même pas inverser les choses. Alors, après ça, il faut écrire l'histoire. Il faut passer au-delà. Je vous conseille, si vous en avez l'occasion, d'inviter le réalisateur d'un film absolument prodigieux qui s'appelle « Mémoire d'entre-deux-rives ». J'ai oublié le nom du réalisateur. Pardon ? Non. J'ai un trou de mémoire. C'est un livre, c'est un film prodigieux parce que justement, il creuse au plus profond de cette histoire coloniale, et en fait la relecture de cette histoire aboutit à une force et à une paix. Moi on a projeté ce film à Lyon par exemple, je n'ai jamais entendu des Africains parler comme ça. Quelque part c'est comme si ce film libérait leurs paroles, tellement il est fort dans ce travail sur la mémoire. Donc non seulement je crois qu'il faut faire ce travail de mémoire, mais que ce travail de mémoire peut libérer, et que ce travail de mémoire n'aboutit pas du tout forcément à la vengeance. Il permet de comprendre et de se ressaisir. Donc tout ça, je le crois profondément. Mais ce sur contre quoi nous nous inscrivons, c'est cette espèce de négationnisme qui consiste à dire qu'il n'y a pas de responsabilité étrangère. Quand vous regardez la constitution de la dette, que vous voyez qu'au Congo-Brazzaville, c'est l'adjoint d'André Tarallo, Jacques Sigolé, qui à la fois gère le pétrole, on détourne une partie, gère la dette en Suisse et achète les armes pour les deux camps de la guerre civile, vous dites quand même, c'est vrai qu'il y a une responsabilité africaine, mais il y a des responsabilités françaises.
Avant tout, saluer quand même le travail que vous faites. Vous, ainsi que tous ceux qui sont derrière vous, qui sont j'avais entendu parler, mais aujourd'hui j'ai rencontré le père. Je suis très enchantée de voir qu'il y a en France des personnes qui osent.
Mais vous savez, ce n'est pas une vocation.
C'est pas une vocation.
C'est-à-dire que nous.
Mais à
nous,
force de voir certainement la misère. Ou voir ce qui se passe dans le monde, vous n'avez pas pu vous contenir.
Mais c'est-à-dire que nous, au départ, Moi, je suis un Français ordinaire. J'avais pas tout à fait 20 ans en 62, donc je n'ai pas pu voter avec 80% des Français. Le fait qu'on nous appelait à tourner la page de la colonisation, on nous disait la guerre d'Algérie c'est fini, la France a fait un certain nombre d'horreurs par le passé, il y a eu l'esclavage, la colonisation, mais maintenant, on tourne la page, on accorde l'indépendance et on rentre dans des relations nouvelles. 82% des Français ont voté oui. Mais ils ne savaient pas du tout que De Gaulle et Foucault étaient en train d'organiser exactement le contraire de ce qu'ils votaient.
C'est clair pourtant.
Mais vous êtes extra lucide, vous. Moi, j'avais. Moi, je savais pas.
Ce que je voulais dire.
Oui.
On a volé nos âmes. C'est très difficile. Parce que en 60-63, le pays venait d'accéder à l'indépendance. Et quelque part, j'étais encore au collège et je m'investissais pour pouvoir parvenir à finir des études après, acquérir la connaissance et peut-être plus tard servir mon pays. Mais depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été à l'école et aujourd'hui, je m'aperçois que je n'ai rien eu. Pourtant, j'ai été à l'école. Impossible de travailler parce que tout le temps vous avez des banques qui vous tombent dessus, ou alors des querelles politiciennes qui n'en finissent point. Et aujourd'hui, je découvre que vraiment, M. Verschal et ce que vous faites et ceux qui sont derrière vous, nous avons une mine d'informations. Et comment justement exploiter cette mine d'informations? Et comment surtout arriver à la solidarité dont vous parlez? Parce que moi, c'est ça qui m'importe. Les Africains, on les divise pour régner. Nous sommes divisés justement pour pouvoir mettre la main sur la proie facilement. Mais on ne va pas continuer, nous les Africains, à regarder, et surtout vous, les quelques Français conscients du drame. Nous avons eu là le drame rwandais, et ça peut se répéter aussi. Vous avez évoqué vous-même la guerre au Congo. En 99, toute une partie de la population du Sud, des garçons vont passer comme ça.
Oui, l'affaire du Biche, pour laquelle nous avons porté plainte avec la Fédération internationale des droits de l'homme, que nous soutenons.
Moi, ce qui m'intéresse, M. Verschal, et sur lui, ainsi que tous ceux qui sont dans cette salle, des hommes de bonne volonté, c'est comment arriver à cette solidarité qui puisse nous permettre justement de dire non, ça suffit.
Et je pense que la première chose, c'est notre. Et si nous avons pu faire un travail utile, c'est en rassemblant les informations sur tout le continent, de montrer que ce qui apparaît dans la totalité des endroits de l'île, c'est exactement les mêmes schémas au Cameroun, au Togo, au Tchad, etc. Et que finalement, il y a une mécanique mise en place par Foucault et qui est une mécanique contre laquelle les Africains doivent et peuvent s'unir. Rappelez-vous, les grands leaders indépendantistes africains étaient tous panafricains. Et quand je vois des gens qui disent on va mener le combat contre la France-Afrique à partir d'une ethnie de Côte d'Ivoire, considérant qu'une partie des Ivoiriens ne sont pas Ivoiriens, alors que la Côte d'Ivoire n'a que 40 ans et que quelque part c'est une création de la colonisation, je me dis que ces gens-là, il faut être boigné. Avec Foucault, on passait leur temps à acheter les dirigeants africains pour que l'OUA ne soit pas l'organisation de l'unité africaine. Il y avait un camp qui était le camp de l'unité africaine, un camp de Foucault qui voulait absolument multiplier les petits États peu vivables, et c'est ce camp-là qui a gagné.
Justement, face à cette méthode-là, comment ça nous allons parce que tous sont achetés.
Tous ceux qui dirigent sont.
Vous prenez le cas de Sassou, de Bongo, de Eyadema et tous.
ils sont à la tête de nos États, et ce sont ceux-là qui sont alliés à la France et qui font la pluie et le beau temps.
Tous les grands changements dans l'histoire se sont faits parce qu'à un moment donné, des peuples ont dit non.
Et
pour dire non, il faut comprendre que l'adversaire utilise deux armes de prédilection. Je n'ai pas le temps de faire de long chez moi. Ces deux armes de prédilection, c'est la manipulation de la crise et c'est la corruption, dont on vous prétend que c'est une fatalité, alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire de la crise. Et donc on vous dit, mais vous n'allez pas construire de biens publics, puisque tous les Africains sont corrompus. Ce qui est un mensonge absolu par rapport aux valeurs profondes de l'Afrique. On vous dit, vous n'allez pas construire d'État, vous n'allez pas construire de biens publics, parce que tout le monde fonctionne uniquement à partir de son ennemi. Tant que vous avalerez ces couleurs de la néocolonisation, eh bien, vous n'en sortirez pas. Donc, quelque part, il faut comprendre, et puis trouver dans ses propres racines, et il y a dans la civilisation africaine des racines de confiance, des racines de solidarité exceptionnelles. Vous les avez, ces forces. J'en suis persuadé. On les voit. Mais ces forces, il faut les utiliser pour refuser ces espèces de denrées empoisonnées qu'on vous présente comme des fatalités.
Et demain matin à Lyon...
Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'Afrique connaîtra la stabilité si à chaque fois la France considère que ses intérêts sont menacés? Je vois un exemple, le cas du Gabon avec le président Bongo qui aujourd'hui, comme son collègue et Adama, ça fait plus de 40 ans il est au pouvoir. Aujourd'hui, le peuple gabonais décide aujourd'hui de vouloir de se réveiller et de chasser le président Bongo. Est-ce que celui qui viendra après ce dernier, s'il ne répond pas aux attentes de la France, est-ce que vous pensez que le Gabon connaîtra la stabilité?
Il y a quand même des exemples de pays africains qui ont balancé leur dictateur, qui ont mis quelqu'un de convenable à la place, qui ne plaisait pas tellement à la France, mais je pense que là maintenant, l'intervention directe ou les coups tordus, les magouilles, ça devient un peu plus difficile que ça n'était quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir.
Mais il y a aussi un exemple de pays où la France a plus ou moins montré qu'elle avait des intérêts là et elle a fait revenir des personnes comme Sassou.
Voilà.
Parce que la France avait ses intérêts au Congo et le président qui était là avant ne remplissait pas ce que la France voulait, n'apportait pas à la France les intérêts qu'elle voulait. Elle a fait en sorte que Sassou puisse revenir. Donc est-ce que, pour l'exemple d'un pays comme le Gabon, est-ce que cette situation n'est pas à craindre à l'avenir?
Elle est à craindre si nous ne faisons pas ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit à livre ouvert. C'est-à-dire que ces expériences nous apprennent. Moi, j'ai d'abord écrit La France-Afrique, et ce qui m'a fait écrire les 600 pages de Noir Silence, c'est l'expérience de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Parce que on comprend après coup. Mais il faut que ce qu'on a compris serve à l'avenir. Je veux dire, maintenant, les mécanismes d'oppression, de pillage de l'Afrique sont parfaitement connus. Nous avons écrit, et pas les seuls, 10 000 pages sur la question, tous les modes d'emploi sont là. Donc vous pouvez prendre des précautions. Et en plus, on peut anticiper et dénoncer, dire, ben voilà, on a mis en place un président qui est le nôtre, et voilà ce que la France est en train de manigancer. Or, comme je le dis souvent, l'iceberg des relations franco-africaines, il y a la partie émergée et la partie immergée qui est cachée, ne peut prospérer que dans l'ombre. La France-Afrique ne peut prospérer que si on ne connaît pas, si on ne décrit pas ses coups. Si pendant le génocide au Rwanda, on dit que c'est la France qui fait le génocide, elle ne peut pas le faire. Il y a une entrevue formidable de Mitterrand avec MSF début juin. MSF, qui a eu 1000 de ses employés rwandais massacrés pendant le mois d'avril, a fait une campagne extraordinaire sur le génocide, a obtenu même le prime time de TF1 pour en parler le 16 mai, et a fait une lettre ouverte à Mitterrand, dénonçant déjà tout ce que je dis aujourd'hui, la complicité de la France dans le génocide. Bon, Mitterrand a reçu MSF. Il a dit, oui, effectivement, ces gens-là deviennent imprésentables, nous allons retourner la situation, et nous allons aller sauver les rescapés. Bon, donc, à partir du moment où les choses apparaissent, le pouvoir est obligé de faire semblant, de rendre hommage à la vertu. Donc, le travail fondamental, c'est un travail de mise à plat d'exposition de ces méthodes.
Oui. Rapidement, parce que...
Il reste 7 minutes.
J'ai fait un but. J'ai commencé par une citation qui dit « Le boulot tue deux fois, la deuxième fois par le silence. » Avec les bouquins de Stéphane Swiss, « Négrologie » et de Jean Cellini, je ne me rappelle pas exactement du titre, mais c'est le bilan de l'organisation. En gros, Bosmoli disait « La France a laissé à ses anciennes colonies 63 fois, donc c'est très positif pour ses anciennes colonies. La France a bien fait. » Il est temps de comprendre que maintenant, le bureau tourne peut-être trois fois, la troisième fois par la parole, avec des bouquins comme ça. Et les Africains sont donc interpellés eux-mêmes à prendre leurs responsabilités. Et je vous dire à la suite de la dame tout à l'heure, qu'il est important que les Africains aussi se réveillent, simplement en regardant où l'ancien président prenne leur retraite.
Voilà.
Si les Africains savent qu'ils ont difficilement accès à un type de séjour, ce n'est pas le cas de Abu Dhabi, ce n'est pas le cas de Bédié, et qu'on sort. Je passe. Première question, monsieur le professeur. Je vais demander, est-ce que votre vie ou votre sécurité a été menacée après tous les bouquins que vous avez publiés? Deuxième question, y a-t-il des présidents actuellement en Afrique qui ne sont pas France-Africains? J'en ai une autre, et vous êtes deux autres. Êtes-vous interdit de séjour au Sénégal au même titre qu'Alma Rewan qui a écrit le bouquin Le Sénégal en seconde page? Et dernière question, la Côte d'Ivoire peut-elle craindre une escalade de violence qui déboucherait sur une instabilité comme en RDC?
Bon, alors, la première, c'était... on me pose très souvent cette question. Non. Je pense, alors, évidemment, pourquoi? Pendant très longtemps, la stratégie était celle de l'édredon. C'est-à-dire, moins on en parle, mieux ça vaut. Et d'autre part, je ne suis pas tout seul. Notre association comporte 1500 membres. Donc, certains peuvent penser que ce n'est pas un très bon plan. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est une question... Moi, la seule réponse que je peux donner, c'est qu'on court moins de risques à faire ce travail en France qu'en Afrique. Et que donc, il faut le faire là où on court le moins de risques. Mais le risque nul n'existe pas. Ensuite, la deuxième, c'est...
Alors, y a-t-il des présidents qui soient pas France-Africains pour la séjour?
Mali. Madagascar.
Disons qu'il y a 5 ou 6 pays en Afrique francophone où on est passé du degré zéro de l'indépendance, qui est la nomination de gouverneur par l'ancienne puissance coloniale, au choix par les populations d'un président différent de celui qui était l'héritier de ce système. C'est le cas du Sénégal, du Mali, du Niger, de Madagascar, je dois en oublier un ou deux. Bon. Les autres, c'est les dynasties france-africaines qui ont été établies en 1960. Le degré 1, c'est quand même beaucoup mieux que le degré 0, parce que le peuple a la mémoire qu'il a su choisir, et qu'il a su choisir, et qu'il a pu sortir des présidents prédestinés imposés de l'extérieur. Mais le degré 1, y compris dans l'histoire de France, le degré 1 de l'indépendance, c'est pas le paradis. C'est-à-dire qu'on peut très bien élire des gens qui sont pas terribles, on en a l'expérience, je veux dire... tous les jours. Donc, je dirais, je ne peux pas répondre totalement à votre question parce que, bien entendu, un certain nombre de ces présidents ne sont pas indemnes de dossiers de moins. Mais c'est vous qui les avez choisis et vous pouvez en choisir d'autres. Et ça, j'en discute souvent avec des amis sénégalais, c'est quand même profondément différent. Il y a quand même une certaine liberté d'expression, une vitalité politique au Sénégal que beaucoup d'Africains enviraient. Bon. Non, il vit au Sénégal. Non, je ne suis pas interdit de séjour, j'irai peut-être d'ailleurs. Mais non, je pense que la force de la société civile et de la poussée démocratique au Sénégal empêche pour le moment ce régime de retomber dans une situation antérieure, même si Wade est l'ami de la France-Afrique depuis toujours, comme Alma Miwan l'avait écrit. Et puis la dernière question, c'était...
La Côte d'Ivoire peut entraîner...
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est extrêmement inquiétant, et les méthodes employées sont, par certains côtés, évoquent les méthodes de la guerre psychologique, les escadrons de la mort, les milices, tout ça est en place. Merci.